Chers auditeurs de Transistor, bienvenue dans 20 minutes d'histoire pour votre émission historique.
Notre invité aujourd'hui est Sylvain Guggenheim, professeur à l'ENS de Lyon, membre récemment nommé de l'Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens et qui a publié en 2007 un important ouvrage intitulé « Les Chevaliers Teutoniques » qui va faire l'objet de notre interview.
En 2008, il publie Aristote au Mont-Saint-Michel, un ouvrage qui s'interroge sur la transmission des textes grecs à l'Occident latin.
Il a également publié en 2009 « Regards sur le Moyen-Âge, 40 histoires médiévales », un ouvrage original qui regroupe plusieurs chapitres thématiques, constituant tous une mise au point solide sur des sujets précis et permettant d'appréhender plus globalement le Moyen-Âge.
Enfin, c'est la réforme grégorienne qui a fait l'objet de son attention, puisque Sylvain Guggenheim aborde dans un ouvrage intitulé « La réforme grégorienne de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde », paru en 2010, le rôle du sacré et le processus de sécularisation du pouvoir religieux entre les 11e et 12e siècles. La question en histoire médiévale mise au programme de l'agrégation en 2008-2010 a eu pour conséquence de replacer pleinement cette période clé au centre des préoccupations des étudiants. Cet ouvrage s'inscrit donc pleinement dans cette tendance.
Les centres d'intérêt de Sylvain Guggenheim sont, comme nous le voyons, divers, tant par les sujets abordés que par les angles d'approche. Qu'il s'agisse d'ouvrages scientifiques destinés à un lectorat averti, voire spécialisé, ou encore de manuels généraux faits pour des étudiants, Sylvain Guggenheim associe la rigueur du chercheur à la pédagogie de l'enseignant. Nous l'avons interviewé pour vous au sujet de son sujet de recherche, Les Chevaliers Teutoniques.
L'auteur américain Desmond Seward a publié en 2008 un livre intitulé « Les Chevaliers de Dieu, les ordres religieux militaires du Moyen-Âge à nos jours ». Il s'agit de la republication d'un ouvrage plus ancien qui traduit l'intérêt actuel du lectorat pour les ordres militaro-religieux du Moyen-Âge. Ainsi, si les Templiers ou les Hospitaliers sont connus du public français, c'est moins le cas de l'ordre de la Maison de l'Hôpital des Allemands de Sainte-Marie de Jérusalem, véritable nom de l'ordre des Chevaliers Teutoniques.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'équipe de 20 minutes d'histoire. Alors, nous allons commencer les questions tout de suite, sans attendre. Pouvez-vous nous présenter alors succinctement les origines de l'ordre des Chevaliers Teutoniques ?
Alors, à l'origine, c'est un hôpital, une sorte d'hôpital de campagne, qui est fondé à une date qu'on connaît de manière imprécise, entre 1189 et 1190. Une sorte donc d'hôpital de campagne qui est fondé sous les murs de la ville de Saint-Jean d'Acre et qui est fondé, d'après le texte qu'on a, mi-historique, mi-légendaire, si on croit ce texte, qui est fondé par des marchands pieux venus du nord de l'Allemagne, Brême et Lübeck, et qui reçoit, donc petit hôpital, qui reçoit à ce moment-là tout de suite le soutien de nobles présents, de nobles allemands, de princes d'empire présents, qui sont des princes importants. Il y a notamment le fils de l'empereur Barberousse qui est là, le duc d'Autriche. En même temps, c'est une fondation de très, très médiocre, de très petite importance, parce que vous avez un bâtiment qui est un hospice, donc on soigne ou des combattants ou des pèlerins blessés ou malades. Une petite église et puis un cimetière. Les soignes, donc pas tous bien. Les motifs de la création ne sont pas explicités, par piété. Voilà. Et donc, c'est un hôpital. Et 8-9 ans plus tard, 1198, il y a là alors une assemblée à Saint-Jean-d'Acre, une très grande assemblée qui décide de transformer la communauté hospitalière en ordre militaire. Ils vont garder leur vocation hospitalière, mais ils vont y ajouter une dimension de combattants. Cette assemblée réunit des princes allemands qui peuvent être des laïcs ou des ecclésiastiques, puisque les ecclésiastiques en Allemagne sont des princes, les évêques sont des princes, donc une assemblée allemande, mais aussi, et ça c'est intéressant, pas toujours relevé, des prélats de Terre Sainte. C'est-à-dire que la demande est venue, ou en tout cas, il y a eu l'accord des grands prélats latins de Terre Sainte, de la chrétienté latine, donc le patriarche latin de Jérusalem, les archevêques de Tyr ou de Nazareth, l'évêque de Bethléem, l'évêque d'Acre, des seigneurs de la région, qui ne sont d'ailleurs pas forcément allemands, et les grands maîtres de l'ordre du temple et de l'ordre de l'hôpital. Et tous ces gens-là donc se mettent d'accord pour faire, à partir d'une institution caritative et hospitalière, un ordre militaire. Au départ, donc, le destin de l'ordre est vraiment lié à la Terre Sainte et à la volonté de la composante impériale de la croisade de jouer un rôle. Alors, comme on crée un ordre et que créer un ordre, c'est créer un ordre religieux nécessairement à ce moment-là. Les membres peuvent être des laïcs, ce ne sont pas des clercs, notamment les combattants, mais c'est un ordre religieux Il doit donc vivre selon une règle, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il doit être approuvé par le pape. Donc on demande l'approbation d'Innocent III, on l'obtient, et Innocent III donne à l'ordre une règle, et il a fait un mix, il a fait une mayonnaise, il a donné à l'ordre une règle en disant « Vous allez prendre la règle du temple pour les activités militaires et la règle de l'hôpital pour les activités hospitalières et caritatives. »
La Vierge semble jouer un rôle central au sein de l'ordre, étant à la base même de sa création. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
On retrouve dans des vitraux d'églises, justement, à Marienbourg ou ailleurs, il y a beaucoup d'églises dédiées à la Vierge. Bon, déjà, donc, il y a des églises dédiées à la Vierge, et on retrouve dans les vitraux de ces églises l'image de la Vierge. Les teutoniques n'étaient pas excellentes du point de vue de la monnaie. Ils ont fait des monnaies qui n'étaient pas de très bonne qualité, mais ils ont fait, à un moment, des monnaies d'or. Et comme par hasard, quand ils ont fait des monnaies d'or, sur la monnaie d'or, il y a l'image de la Vierge. Et il y a eu, d'autre part, un art en l'honneur de la Vierge. Là, il y avait une statue de la Vierge qui était une statue absolument magnifique dans la ville polonaise de Toruń, que les Allemands appellent Torn, qui a existé jusqu'en 1945, qui a disparu après 1945. Et vous trouvez, ça a été étudié par un collègue estonien, Christian Thomas Pug, qui a étudié les teutoniques en Sicile. Il y a des fresques dans des commanderies teutoniques qui représentent la Vierge. Et il y a un superbe retable polonais dans la ville de... Bon, les Allemands disent Graudenz, qui est très célèbre dans toute la Pologne, qui est en l'honneur de la Vierge. La Vierge était la patronne de l'ordre. Vous la rencontrez partout en Prusse. Et j'ajoute... j'ai fait une fois une conférence, j'ai senti que ça ne m'avait pas plu. Mais le public a tiqué un peu. Mais objectivement, la Vierge a servi de déesse de la guerre. Je veux choquer personne, mais c'est vrai. Au teutonique, on part... dans les campagnes des teutoniques contre les lituaniens païens, on part le jour de fête de la Vierge. Mmh. On part le jour de la nativité de la Vierge. Et on part avec plusieurs bannières. Il y a une bannière de la Vierge. Mmh. Donc on va aussi se battre sous l'effigie de la Vierge.
Donc on en a un peu parlé aussi. Le nom complet de l'ordre, à savoir la maison de l'hôpital des Allemands de Sainte-Marie de Jérusalem, donc, comprend la mention d'Allemand. La dimension nationale, un terme volontairement anachronique ici, est-elle essentielle dans l'identité de l'ordre teutonique ?
Alors oui, à condition de faire attention au terme national, mais vous l'avez très bien dit dans la question. C'est-à-dire qu'au départ, on fonde un ordre pour rendre service à des gens qui parlent l'allemand, enfin qui parlent l'un des dialectes germaniques en usage dans l'Empire. Il faut se rappeler une chose, si vous voulez, en Terre Sainte, les langues qui sont utilisées et qui sont utiles, c'est l'arabe, c'est le français, dans les États latins d'Orient, c'est le latin pour les gens cultivés. Vous vous mettez à la place d'un croisé ou d'un pèlerin allemand qui vient en Terre Sainte, il ne connaît pas l'arabe, il ne connaît pas le français, les plus cultivés connaissent le latin, mais le pèlerin simple, l'homme ou la femme du peuple, est perdu. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'idée de l'hôpital, il y a l'idée d'aider des gens qui sont linguistiquement perdus. Mmh. Ensuite, quand on transforme... cette idée va rester, bien sûr. Mais ensuite, donc à la fin du XIIe siècle, quand on transforme cet hôpital en un ordre militaire, là, c'est une dimension politique, on pourrait dire nationale, mais en fait, elle est impériale. La noblesse d'Empire estime que le rôle de l'Empire est tellement important dans l'Europe du temps qu'il n'est pas normal que l'Empire n'ait pas un ordre militaire. Puisqu'après tout, il y a déjà deux ordres militaires français, entre guillemets, enfin rattachés un peu au Royaume de France, même s'ils sont internationaux dans le recrutement, mais le Temple et l'Hôpital, et que la péninsule ibérique a ses propres ordres militaires. Mmh. Calatrava, Alcantara et Santiago. Et il y a une question d'honneur, finalement, et d'intérêt politique. Les autres ont des ordres militaires, les Anglais n'en ont pas, mais il y a des Templiers anglais, il y a des Hospitaliers anglais. Il faut que l'Empire ait un ordre. Et l'Empire, c'est l'Allemagne et le nord de l'Italie, et la Sicile, donc aussi le sud de l'Italie. Les membres de l'ordre teutonique vont être, dans la réalité, concrètement, à peu près 90% des Allemands. Il y a eu quand même des Italiens dans les commanderies de l'ordre qui étaient en Sicile, justement, dans le sud de l'Italie, et on trouve en Prusse, de temps à autre, quelques Polonais et quelques Baltes, quelques Prussiens qui ont intégré l'ordre. Mais l'ordre a été effectivement un ordre essentiellement allemand. Je dirais que c'est une dimension nationale. Ça n'apparaît pas comme une dimension nationaliste, même si ça a été revendiqué comme ça au 19e siècle, au 20e siècle, d'autant que l'ordre teutonique, quand il contrôle la Prusse, donc la Prusse lui appartient, c'est sa principauté, mais la Prusse n'appartient pas au royaume d'Allemagne et n'appartient pas non plus à l'Empire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la Prusse n'est pas allemande, si vous voulez.
Donc, si on élargit un petit peu la question, donc vous avez bien spécifié que l'ordre teutonique était attaché à l'Empire. Et est-ce que vous pouvez nous parler assez brièvement, mais de manière précise, des liens entre les chevaliers teutoniques et l'empereur d'une part, et d'autre part, des liens entre l'ordre et le pape? Car on sait qu'à ce moment-là, il y a des problèmes entre les deux.
Alors, c'est une question qui peut faire l'objet de quelques centaines de pages, l'histoire des rapports avec l'empereur et la papauté. Donc, les teutoniques sont rattachés à l'Empire, enfin, non, ils ne sont pas rattachés à l'Empire. Ils sont rattachés au départ aux empereurs par un lien de fidélité, c'est-à-dire notamment très vite avec le quatrième grand maître de l'ordre, au début de l'histoire de l'ordre, au début du XIIIe siècle, il y a des liens qui se créent, des liens d'amitié personnelle entre le grand maître de l'ordre, Hermann von Salzach, et l'empereur Stauffen, Frédéric II. Ce sont des liens d'amitié et des liens d'aide. Hermann de Salzach sert de diplomate à Frédéric II, et en fait, tant qu'il a été vivant, entre Frédéric II et la papauté, on a évité la guerre. On n'a pas toujours évité la rupture, mais Hermann de Salzach a toujours réussi à rétablir de bonnes relations. Quand il meurt en 1239, c'est le début de la lutte à mort, mais vraiment à mort, entre l'empereur Frédéric II et la papauté. Par la suite, l'ordre teutonique n'a pas de lien avec l'Empire. Il n'est pas un ordre d'Empire ni un ordre d'Allemagne. La Prusse, donc, ni dans l'Empire ni dans l'Allemagne. Et les liens avec les empereurs sont des liens assez lâches. D'autant que les empereurs d'Allemagne, les rois d'Allemagne, quand ils deviennent empereurs, traditionnellement, ne s'intéressent pas au nord. Un historien allemand a dit que cette région-là, elle est Königsfern, elle est loin des rois d'Allemagne. Tout le développement de la Hanse, tout le développement de l'Allemagne du Nord se fait au XIIIe, XIVe siècle sans que les rois ou les empereurs s'en mêlent. Ils se mêlent de l'Italie, ils se mêlent du reste de l'Allemagne. Le nord de l'Allemagne ne les intéresse pas. Quand l'ordre teutonique demande une aide, un privilège, ils l'accordent, mais ils n'ont pas de politique active. Au moment des gros problèmes que connaît l'ordre, donc après la conquête de la Prusse, au moment où il connaît des problèmes avec la Pologne, avec des problèmes qui ne sont pas permanents, qui sont récurrents. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Mais lors des crises des 14e et 15e siècles, les teutoniques ont demandé l'aide de l'empereur, mais sans s'inféoder à l'empereur. Et ils ont été soutenus, effectivement, par les empereurs, par exemple par Louis de Bavière. D'un autre côté, comme ils demandent l'aide de l'empereur, mais qu'ils ne font pas le jeu de la politique impériale ailleurs. Ils finissent par agacer les empereurs. Et au XVe siècle, vous avez des problèmes. Les teutoniques ont des guerres, alors là, qu'ils perdent au XVe siècle contre la Pologne. Ils perdent Tannenberg, la bataille de Tannenberg 1410. Et à ce moment-là, il n'est pas empereur, mais le roi de Hongrie, roi d'Allemagne, Sigismond, refuse de les aider. Et il y a une altercation célèbre, puisqu'il y a une demande d'aide du grand maître de l'ordre de l'époque. Et Sigismond, on a le texte, Sigismond dit au grand maître, lorsqu'on vous convoque devant l'empereur, vous dites que vous relevez de l'Église et du pape. Et puis, si vous êtes accusé par le pape, alors vous dites que vous relevez de l'Empire. Et résultat, personne ne peut obtenir de vous ses droits, les droits qu'il a sur vous. Et en gros, effectivement, les teutoniques ont joué un jeu de bascule entre les deux obédiences. Ce qu'ils ont eu l'habileté de jouer au départ, puisqu'au départ, quand ils s'installent en Prusse, ils demandent à l'empereur des privilèges, d'un côté, et ils demandent au pape, de l'autre côté, des privilèges. Ils demandent à l'empereur ce qu'un empereur peut donner. Des droits régaliens, le droit de conquérir la terre, etc. Et ils demandent au pape des privilèges que seul un pape peut donner à une institution religieuse. Ils mixent les deux privilèges, c'est ce que j'avais montré dans mon habilitation, il n'y a pas eu d'opposition pape-empereur pour la Prusse. Les teutoniques, en gros, Hermann de Salzach a su utiliser ces deux autorités qui pourtant pouvaient être en conflit par ailleurs, au profit de l'ordre, pour construire une principauté en Prusse. Mais après, si vous voulez, à force de vouloir utiliser l'un et l'autre, et parfois l'un contre l'autre, vous finissez par avoir un peu tout le monde contre vous. Et la papauté, là aussi c'est intéressant, on pense toujours que comme c'est un ordre religieux, un ordre militaire, il a été soutenu par le pape, et c'est faux. Le pape, au XIIIe siècle en gros, oui, sauf quand les teutoniques sont accusés de ne pas évangéliser ou de commettre des actes de brutalité. Il y a même une excommunication du maître de Prusse à un moment, au milieu du XIIIe siècle, en pleine guerre contre les païens. Et au XIVe siècle, il y a des procès qui ont lieu. La Pologne met en accusation l'ordre teutonique en l'accusant d'être responsable de guerre, de déprédation, de pillage, de razzia, etc. Et la papauté soutient la Pologne dans les procès de 1322, de 1339. Donc les teutoniques n'ont pas toujours été, loin de là, soutenus par la papauté.
D'accord. Juste pour revenir, donc on parlait par exemple tout à l'heure de la bataille de Tannenberg. C'est vrai que j'ai vu pas mal, beaucoup de films avec ce stéréotype du chevalier teutonique qui incarne l'envahisseur germanique par excellence, vêtu d'un grand manteau blanc à croix noire, d'une lourde armure d'acier, le visage masqué, donc, comme vous l'évoquez dans votre ouvrage, par un homme cylindrique, c'est un peu la figure du chevalier teutonique, mais qui a encore la dent dure. Donc déjà, d'où vient ce stéréotype qui aujourd'hui encore est actuel, et qu'en est-il réellement au Moyen-Âge, en fait ?
Oui, ils sont du côté obscur de la force. Voilà. Alors, ça, c'est l'image du film d'Eisenstein, voilà. Alexandre Nevsky, qui est intéressant puisqu'il raconte une véritable bataille qui a eu lieu, mais où en fait ce ne sont pas les teutoniques qui ont été battus pour l'essentiel, c'était des membres de l'ordre des porte-glaives qui étaient là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, vous avez il y a des choses qui sont vraies dans l'image. Ils ont effectivement un manteau blanc à croix noire. C'est vrai que certains chevaliers se battent avec un homme qui couvre complètement la tête, c'est exact. Maintenant, le stéréotype, en quoi consiste-t-il ? Les teutoniques sont un ordre puissant politiquement, qui use de violence, qui tue ses ennemis, qui n'évangélise pas, qui fait même des guerres contre les chrétiens, alors qu'en tant qu'ordre militaire, il ne doit se battre normalement que contre des païens, et qui exerce une justice qui est parfois dure, il lui arrive de pendre des gens. Ces choses sont exactes. Les teutoniques étaient un ordre militaire, c'était des seigneurs, et ils ont agi en seigneurs, comme on agit en seigneurs au Moyen-Âge. Cette mauvaise image des teutoniques repose sur des phénomènes notamment guerriers, voire des phénomènes de politique de justice brutale qui sont réels, qui sont apparus du côté polonais dans les luttes au XIVe siècle des Polonais contre les teutoniques. Cette vision négative de la domination de l'ordre, alors, correspond pas non plus entièrement à l'été, il ne faut pas les imaginer en train de pendre des gens tous les jours. C'est pas ça non plus. Mais effectivement, ils ont des ennemis qui les présentent en insistant sur leur crime, etc. Et par ailleurs, au XVe siècle, après les défaites contre la Pologne, les teutoniques, après 1410, ont eu une politique fiscale, par exemple, qui a été assez lourde, et ils ont restreint les privilèges et libertés urbaines, et donc ils ont eu l'image d'un pouvoir seigneurial tyrannique, oppresseur, notamment en raison d'exigences fiscales beaucoup trop lourdes, ce qui fait que des villes de Prusse ont eu tendance à passer du côté de la Pologne. Bon, en même temps, quand il y a des guerres entre les Polonais et les Teutoniques, les Polonais aussi commettent des crimes. C'est clair, et on le voit dans les récits, y compris de chroniques polonaises. Des villes mises à sac, ça existe aussi du côté polonais. Alors, je dirais qu'on reste quand même dans le cadre d'accusations dures, mais finalement, qui restent relativement acceptables. En revanche, avec la montée des nationalismes au XIXe siècle, et surtout avec le sort de la Pologne, qui est quand même assez tragique, déjà les partages à la fin du XVIIIe siècle, mais la situation de la Pologne au XIXe siècle et au XXe siècle, avec dans le pan-germanisme qui apparaît au XIXe siècle, avec certaines sociétés ultranationalistes allemandes très antislaves, qui ont reconstruit l'image des teutoniques en disant qu'ils représentaient la digue contre le danger slave, comme si les Slaves menaçaient avec, au Moyen-Âge d'envahir l'Allemagne, ce qui était faux. Pas plus que les Allemagnes, l'Allemagne d'ailleurs n'avait envahi les Slaves. Mais donc on a présenté les Teutoniques comme la digue, on utilisait ce terme de bolwerk, de digue, de rempart de l'Allemagne et donc de la civilisation contre la barbarie slave. Ça a été présenté. Et le post-slavisme avait une vision extrêmement négative réciproquement de l'Allemagne. Les Teutoniques ont été investis d'images encore plus violentes que dans la réalité, encore plus guerrières que dans la réalité, à la fois par ceux qui les admiraient et par ceux qui les détestaient. Et quand vous arrivez à la tentative d'élimination de la Pologne par Hitler, alors que Hitler ne s'est pas tellement servi des Teutoniques, un ordre militaire soumis au pape, ça n'intéresse pas trop les nazis, mais vu ce qui s'est passé en Pologne, les monstruosités qui ont eu en Pologne, c'est certain que l'image des Teutoniques est extrêmement négative. On atteint le point culminant au moment où la Pologne respire un peu, si vous voulez, après 1945. Et vous avez encore cette image dans le film d'Alexander Ford sur la bataille de Tannenberg, qui s'appelle Kijat, les chevaliers teutoniques. Mais vous aviez déjà cette image très noire dans le roman de l'écrivain polonais prix Nobel de littérature Henryk Sienkiewicz, Alexander Ford a tiré son livre du roman de Sienkiewicz. Je voudrais dire deux petites précisions. Dans la réalité, les Teutoniques n'incarnent pas un expansionnisme allemand, qui de toute façon n'existe pas au Moyen-Âge, là tout le monde est d'accord. Les colons allemands arrivés dans les pays slaves étaient invités par les souverains slaves, c'était des paysans qui venaient auxquels on donnait des terres. Les Teutoniques incarnent effectivement une opération de conquête et de construction militaire d'un État, ça c'est tout à fait vrai. Et je dirais d'autre part, cette image noire est vraiment gommée maintenant quand on a la chance, je dirais, de participer au colloque germano-polonais qui ont lieu à Torun tous les deux ans. Et quand on voit comment maintenant coopèrent les historiens allemands et polonais à propos de l'histoire de l'ordre, c'est d'abord c'est très réjouissant de voir que les gens se parlent sans aucune animosité et que l'histoire des Teutoniques est revue maintenant avec distance et qu'on remet les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on ne gomme pas l'existence de guerre, de conflit, de violence ici ou là, et on gomme tous les excès et toutes les caricatures de quelques endroits qu'elles aient été émises, puisque les Polonais reviennent eux-mêmes sur Henryk Sienkiewicz. Même maintenant, les historiens polonais reviennent sur leur grand historien national, Jan Długosz, en disant « oui, c'est un grand historien, mais c'est aussi un grand littéraire, et c'est pas une source historique aussi fiable ». On a une histoire dépassionnée.
Donc on a évoqué le XXe siècle. La question qu'on peut se poser assez légitimement, quand on n'est pas spécialiste de ces questions, c'est de savoir si l'ordre des chevaliers existe encore aujourd'hui, et si oui, sous quelle forme.
Alors, l'ordre teutonique existe toujours aujourd'hui. C'est un ordre caritatif, c'est-à-dire que c'est en gros l'équivalent de l'ordre de Malte, sauf que c'est un ordre qui est héritier des hospitaliers, sauf que l'ordre teutonique actuel est beaucoup moins puissant, beaucoup moins riche que l'ordre de Malte. Donc il existe uniquement en Autriche, et il y a peut-être quelques commanderies en Allemagne, mais le siège est en Autriche, à Vienne, où ils ont une partie des archives, et ils font notamment des actions caritatives et hospitalières, en revenant à l'une de leurs vocations en Afrique occidentale, en liaison notamment avec des pays qui ont été un très très court moment colonisés par la main, le Cameroun par exemple. D'accord. Mais ils débordent aussi de ce cadre. Ils sont surtout présents en Afrique. Et donc ça reste un ordre religieux qui est plus du tout militaire.
La première vocation.
Moins les armes. Voilà. Mais le retour à l'hôpital allemand de Saint-Jean d'Acre, si vous voulez.
C'est ça. En vous écoutant, en plus, il y a encore la dimension nationale dans les anciens pays africains.
Oui, voilà. Eux sont présents. Je ne sais pas du tout comment, si vous voulez, quel est l'impact de leur action. Je sais qu'ils font des choses. Maintenant, je n'ai jamais regardé ça de près. Il y a des membres de l'ordre qui ont fait des articles, mais je n'ai jamais lu de choses précises sur l'action actuelle de l'ordre teutonique. Je pense qu'au niveau caritatif, ça n'atteint pas la dimension de l'ordre de Malte.
Et au niveau de la recherche, l'ordre a encore un institut aujourd'hui qui étudie spécifiquement l'histoire de l'ordre ? Alors, c'est fait par des historiens d'horizons plus divers.
Il y a des membres de l'ordre, mais l'ordre ne compte pas beaucoup de gens. Je crois même qu'il compte même plus de membres femmes que de membres hommes maintenant. Il y a des historiens qui sont membres de l'ordre. Il y a une partie, enfin, les archives de l'ordre conservées à Vienne sont sous la responsabilité souvent d'un clerc, d'un homme d'église, membre de l'ordre. En revanche, les archives de Prusse sont à Berlin et c'est des archives d'État laïques. Les archives polonaises sont de différents ordres. Et il y a une commission internationale de recherche de l'ordre teutonique qui s'appelle Internationale Commission zur Erforschung des Deutschen Ordens. Qui est composé d'une trentaine de chercheurs internationaux, en majorité relative allemand, en majorité absolue, à coup sûr, allemand et polonais.
Et donc vous êtes le seul historien français?
Oui, j'ai été coopté. C'est une association à laquelle on ne demande pas d'entrée. Mais j'ai appris que j'avais été coopté, ce qui faisait un grand plaisir. Et il y a un ou deux Italiens, il y a un Hollandais, il y a un Estonien, celui dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et qui. Ça ne veut pas dire que tous les chercheurs qui travaillent sur l'autotonique font partie de cette commission, bien sûr. Mais c'est une commission spéciale qui publie. Une collection qui a une soixantaine de volumes, tout est en allemand, sauf un volume qui avait été donné aux Polonais.
D'accord.
Et qui est rédigé entièrement en polonais.
Sylvain Guggenheim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme il est tradition dans notre émission, nous vous laissons le mot de la fin.
Bon, c'est gentil. Je vais en profiter pour dire quelque chose à quoi je tiens finalement particulièrement, et qui est les liens entre l'enseignement et la recherche. Et l'importance, enfin je vais sans doute dire des banalités, hein, mais l'importance du fait d'enseigner. Il y a une chose qui frappe au bout de plus de 25 ans d'enseignement, mais je crois qu'il est partagé par d'autres collègues, c'est que quand on enseigne devant un public par oral, on transforme le cours qu'on a préparé. Et même si on l'a très bien préparé, même si on a l'impression que sur le papier il est impeccable, ou qu'il a des défauts, bon voilà, je suis arrivé au bout, le fait d'enseigner transforme. Ce qu'on a préparé. Et le fait d'enseigner même une question dont on est spécialiste amène à mieux la comprendre. C'est pour ça que je trouve que c'est très important quand on fait de la recherche d'enseigner, comme quand on enseigne, de faire de la recherche. Et donc même quand on enseigne une question qu'on connaît, le fait d'en parler devant un public amène des idées qu'on n'avait pas quand on travaillait tout seul ou quand on travaillait entre spécialistes. Le fait d'enseigner des questions qui n'ont rien à voir avec ses spécialités, j'y pense parce que par exemple j'ai fait des cours d'agrégation sur l'économie byzantine, je connaissais un peu l'histoire de Byzance mais pas beaucoup, j'ai appris beaucoup et ça m'a donné des idées, ou je dirais ça m'a apporté dans mon travail d'historien. Il y a autre chose quoi je tiens finalement dans l'enseignement, c'est que le grand plaisir de l'enseignement, c'est de non seulement de faire découvrir à des gens des choses qu'ils ne connaissent pas, mais c'est de montrer à des gens qui sont capables de réussir des choses qui, a priori, leur paraissent difficiles. Et donc, je crois que tout le monde a connu en tant qu'élève, c'est la satisfaction, après un effort, d'avoir surmonté une difficulté. Ce qui existe aussi, je dirais, dans le domaine sportif, par exemple, en vélo, dans d'autres sports, etc. Et je trouve que dans l'enseignement, il y a tellement de problèmes dans l'enseignement à l'heure actuelle. Donc, il y a une chose qui me paraît vraiment importante. Je dirais que si on arrive à créer ça dans le public qu'on a, et j'ai enseigné 10 ans dans le secondaire, ça peut être des élèves de 6e comme des jeunes adultes, comme les gens qu'on a la chance d'avoir ici dans le public, arriver à créer la satisfaction dans le public, des gens, de se dire tiens, qu'ils sont capables, non seulement ils ont pu être intéressés par quelque chose, mais ils ont été capables d'avoir réussi quelque chose, c'est-à-dire que ça provoque un accroissement de la confiance en soi, et ça donne aussi à l'arrivée un sentiment, je trouve, qui me paraît important, d'autonomie et de liberté d'individu. Et puisque vous me laissez le mot de la fin, il se trouve que je suis en train de lire, je n'avais pas prévu quand vous m'aviez interviewé, mais je suis en train de lire le livre de quelqu'un que j'aime bien, qui est Camus, c'est aussi banal, hein, d'aimer Camus, mais c'est le premier homme, et il fait parler son héros, mais c'est Camus qui parle en pensant de son instituteur. Il a une très belle phrase que je vais citer. Dans la classe de Monsieur Germain, pour la première fois, ils sont les élèves. Ils sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. Deux points. On les jugeait dignes de découvrir le monde.
au revoir.